Retrouvez les interviews santé de Rebecca.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Samedi dernier, nous étions le 18 novembre et il s'agissait de la journée européenne d'information sur les antibiotiques. Vous imaginez bien qu'en tant que pharmacienne, je me devais d'aborder ce sujet. Vous avez probablement entendu le slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique ». Nous allons voir ensemble, au cours de cette interview, que cette phrase a tout son sens. Mon objectif aujourd'hui est de vous informer sur les risques toujours plus importants liés à l'usage inapproprié des antibiotiques. Les données les plus récentes confirment en effet le nombre croissant de patients infectés par des bactéries résistantes. Pour cela, via les réseaux sociaux, j'ai récolté les principales questions que vous posez sur les antibiotiques et l'antibiorésistance.
Qu'est-ce qu'un antibiotique ?
Antibiotique vient du grec anti, qui signifie contre, et biotikos, qui concerne la vie. Ce sont donc des substances chimiques, naturelles ou synthétiques, qui ont une action spécifique, sur les micro-organismes, bactéries ou protozoaires. Un antibiotique peut soit tuer la bactérie, son action est dite bactéricide, soit empêcher la prolifération de la bactérie, son action est alors dite bactériostatique.
Quelle est l'origine des antibiotiques ?
Les premiers antibiotiques isolés, les pénicillines, ont été des substances naturelles produites par une levure du genre Penicillium. Par la suite, d'autres antibiotiques ont été obtenus par semi-synthèse, c'est-à-dire en modifiant une partie d'une molécule naturelle ou par synthèse chimique complète.
Comment agissent les antibiotiques ?
Les bactéries sont des êtres vivants formés d'une seule cellule. On les trouve absolument partout dans notre environnement, dans le sol, dans l'eau, sur les objets quotidiens, dans nos aliments, etc. Toutes les bactéries ne sont pas dangereuses. Seules certaines d'entre elles sont dites pathogènes, c'est-à-dire capables de provoquer une infection plus ou moins grave. Beaucoup d'espèces sont sans danger. Certaines vivent par exemple sur notre peau, comme le staphylocoque blanc, on les dit commensal. D'autres vivent dans notre intestin et constituent la flore intestinale qui maintient un équilibre favorable à la digestion et limite le développement d'autres bactéries qui seraient nuisibles. Les antibiotiques agissent sur les bactéries de diverses manières. Certains empêchent la formation de leur enveloppe protectrice. L'action va donc se faire au niveau de la membrane, de la paroi de la bactérie. D'autres agissent en bloquant certaines réactions chimiques indispensables à leur métabolisme. Enfin, certains antibiotiques empêchent la traduction de leur information génétique en protéines. Les actions se font donc au niveau de l'enveloppe de la bactérie, au niveau du métabolisme des bactéries, au niveau génétique. Et comme je disais précédemment, l'action peut être soit bactéricide, on détruit la bactérie, soit bactériostatique, on empêche la prolifération de la bactérie.
Qu'est-ce que l'antibiorésistance ?
Alors, l'antibiorésistance est le phénomène qui consiste pour une bactérie à devenir résistante aux antibiotiques. Les bactéries exposées aux antibiotiques évoluent et développent des mécanismes de défense qui leur permettent d'échapper à leur action. Ce phénomène touche aussi bien les bactéries à l'origine des infections, bactéries pathogènes, que les bactéries généralement inoffensives qui sont naturellement présentes sur notre corps, bactéries dites commensales, les bactéries naturellement présentes chez les animaux, on parle de bactéries de compagnie ou de production de denrées, et dans l'environnement. Lorsque la résistance est développée chez l'une ou l'autre de ces espèces bactériennes, elle peut être transmise à d'autres espèces et ainsi contribuer à l'expansion du phénomène et à sa diffusion. Les antibiotiques deviennent ainsi inefficaces et ne peuvent plus nous soigner contre des infections à bactéries résistantes.
Quelles sont les causes de l'antibiorésistance ?
Alors c'est surtout dû au mauvais usage et à la surconsommation des antibiotiques. Le fait d'avoir utilisé de manière très importante et à plusieurs reprises des antibiotiques en santé humaine et animale est responsable de l'augmentation des résistances bactériennes aux antibiotiques, faisant craindre des impasses thérapeutiques de plus en plus fréquentes. Les antibiotiques agissent non seulement sur la bactérie responsable de l'infection à soigner, mais ils agissent aussi sur les bactéries utiles à notre organisme, comme je disais, les bactéries commensales. Toutes les bactéries risquent de ce fait de développer de nouveaux mécanismes de résistance aux antibiotiques. Plus on prend d'antibiotiques, plus le risque s'accroît de faire émerger des bactéries résistantes qui rendent les traitements antibiotiques ultérieurs moins efficaces pour le patient et pour la collectivité. L'antibiorésistance n'est pas un phénomène nouveau. Depuis la découverte de la pénicilline, chaque nouvelle génération d'antibiotiques a vu apparaître des mécanismes de résistance lui correspondant. Aujourd'hui, de nouvelles résistances bactériennes se multiplient en ville comme à l'hôpital. et poussent les médecins à utiliser des antibiotiques toujours plus puissants lorsqu'ils existent. L'usage répété de ceux-ci contribue aussi à renforcer l'émergence de résistance en milieu hospitalier. Alors pour information, quand la prescription d'antibiotiques est nécessaire, je recommande la prise en parallèle de l'antibiotique des probiotiques. La prise se fait le matin à jeun avec de l'eau tiède de préférence pour ne pas détruire les gélules ou les capsules. Et pour que ça arrive donc intact au niveau intestinal.
Comment se développe l'antibiorésistance ?
Une bactérie peut échapper à l'action d'un antibiotique du fait d'une mutation génétique spontanée ou favorisée par l'exposition aux antibiotiques. La résistance est alors inscrite dans ses gènes. De ce fait, en se multipliant, la bactérie va transmettre sa résistance aux antibiotiques à sa descendance. Plus souvent, les mécanismes de résistance se transmettent par l'ADN d'une bactérie à une autre. C'est par ce mécanisme qu'une résistance apparue chez une bactérie de l'environnement ou qui infecte l'animal peut se transmettre à une bactérie qui infecte l'homme. Il existe quatre grands mécanismes de résistance. L'imperméabilité bactérienne, c'est-à-dire que l'antibiotique ne peut plus pénétrer dans la bactérie. La modification de la cible de l'antibiotique, cela entraîne une perte d'activité de l'antibiotique. L'inactivation enzymatique de l'antibiotique et la mise en place de systèmes de pompe à efflux qui vont éliminer l'antibiotique en dehors de la bactérie.
Qui est concerné par ce phénomène d'antibiorésistance ?
Alors comme vous avez pu le comprendre, l'antibiorésistance est un phénomène mondial qui ne connaît ni frontières géographiques, ni barrières d'espèces et qui constitue une menace planétaire pour la santé humaine, animale et environnementale. Car comme je l'ai dit précédemment, les mécanismes de résistance se transmettent par l'ADN d'une bactérie à une autre et c'est par ce mécanisme qu'une résistance apparue chez une bactérie de l'environnement ou qui infecte l'animal peut se transmettre à une bactérie qui infecte l'homme.
Quelles sont les conséquences de l'antibiorésistance sur notre santé ?
L'antibiorésistance est un grave problème de santé publique mondiale qui progresse extrêmement rapidement et qui s'accélère depuis les années 2000. La résistance aux antibiotiques menace notre mode de vie actuel, et compromet toutes les avancées que la médecine a effectuées depuis plus de 70 ans. Si les habitudes de surconsommation d'antibiotiques ne sont pas stoppées, l'antibiorésistance pourrait devenir l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Alors, je vais vous donner quelques chiffres issus du quotidien du pharmacien. Une vaste étude internationale portant sur les données de 204 pays en 2019 a montré que 70% des décès attribuables à une infection échappant au traitement antibiotique ont pour origine une résistance à deux classes d'antibiotiques, les fluoroquinolones ou les bêta-lactamines. En 2019, 1,29 million de décès ont été attribués à l'antibiorésistance dans le monde. 6 bactéries multirésistantes sont responsables de 75% de ces décès. En 2015, en France, 125 000 infections étaient dues à des bactéries multirésistantes. Ces infections ont entraîné 5 500 décès. Les conséquences de l'inefficacité des antibiotiques sont multiples. Des maladies plus longues et plus difficiles à soigner, des complications de la maladie, des consultations médicales supplémentaires, une utilisation de médicaments plus puissants et plus chers pour arriver à soigner, des risques plus élevés lors d'interventions médicales pour lesquelles les antibiotiques sont indispensables pour réduire les risques infectieux, des décès causés par des infections bactériennes jusqu'alors faciles à traiter.
Comment peut-on faire pour lutter contre l'antibiorésistance ?
Ne surtout pas prendre d'antibiotiques sans prescription par un médecin ou un vétérinaire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les antibiotiques de papa, de maman, du frère, de la sœur ou autre. On respecte la posologie, c'est-à-dire qu'on suit à la lettre ce qui est écrit sur l'ordonnance par le médecin, c'est-à-dire la durée et le dosage. Même si au bout de 3 jours on va mieux, s'il y a marqué 5 jours de traitement, on fait 5 jours de traitement. Toutes les boîtes entamées et ou non utilisées sont à rapporter en pharmacie pour être recyclées. Pour les personnes à risque, il est conseillé de se vacciner contre la grippe pour éviter une surinfection bactérienne. Pour information, la vaccination contre la grippe saisonnière se déroule du 17 octobre 2023 au 31 janvier 2024. La campagne sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Alors, les personnes éligibles à la vaccination contre la grippe sont les personnes âgées de 65 ans et plus. Les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l'âge de 6 mois souffrant de certaines maladies chroniques. Les femmes enceintes. Les personnes souffrant d'obésité, c'est-à-dire qu'un indice de masse corporelle IMC supérieur ou égal à 40. Les personnes séjournant dans un établissement de soins, de suite, ou dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit leur âge. La vaccination est aussi recommandée à d'autres populations afin d'assurer une protection indirecte en vaccinant. Cela concerne donc les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère. L'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque de complications graves, de la grippe et des personnes immunodéprimées. Les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables. La stratégie de prévention de la grippe repose sur deux piliers. Pour tous, la prévention de la grippe passe par l'adoption des gestes barrières qui permettent de limiter la contamination et la dissémination des virus. C'est-à-dire, on va porter un masque si on se sent malade et lavage des mains régulier. Pour les personnes à risque, j'en reviens à la vaccination qui est essentielle. Une petite remarque, les campagnes de vaccination contre la grippe et la campagne de rappel de vaccination contre le Covid-19 se déroulent pendant la même période. Dès lors qu'une personne est éligible aux deux vaccinations, il est possible de lui proposer les deux vaccinations en même temps. S'il n'est pas possible de les réaliser en même temps, aucun délai n'est nécessaire entre ces deux vaccinations. Alors ensuite, dans les recommandations pour lutter contre l'antibiorésistance, il est souhaité d'utiliser des TROD oropharyngés. Ce sont des tests rapides, des angines à streptocoque hémolytique du groupe A. Ils évitent les traitements inutiles car une grande proportion des angines est d'origine virale. Et oui, il faut savoir que 80% des angines sont d'origine virale et non pas bactérienne. Donc si on prend des antibiotiques alors qu'on a une angine virale, ça ne vous soignera pas et ça va altérer les bactéries commensales de notre donc organisme. Depuis le 1er juillet 2021, la réalisation des TROD angines en officine est prise en charge par l'assurance maladie. Ceux-ci sont indiqués que chez les patients présentant un mal de gorge évocateur d'angine entre 10 et 15 ans et chez l'adulte ayant un score de Mac-ISAC égal ou supérieur à 2. Depuis le 13 décembre 2021, en cas de suspicion d'angine, le médecin a la possibilité de faire figurer sur l'ordonnance la mention « si TROD d'angine positive sous X jours calendaires ». Cette mention permet au pharmacien de ne délivrer l'antibiotique que si le résultat du TROD d'angine réalisé dans un délai maximum de 7 jours est positif. Nous reverrons cela prochainement avec le docteur Émilie Noble, médecin généraliste.
Quel conseil donner pour stimuler notre organisme afin de ne pas tomber malade lors des changements de saison?
Je conseille de booster son immunité naturellement par une alimentation saine et équilibrée et une pratique d'activité sportive régulière, au moins deux fois par semaine, et ou marcher quotidiennement. Je peux pas faire de pub de labo à la radio, mais je conseille, et ça vous le voyez au comptoir avec votre pharmacien, la prise de vitamines antioxydantes, à savoir vitamine A, C, E, zinc et sélénium, la prise de gelée royale, d'échinacée. Il y a aussi la possibilité de prendre, d'utiliser l'huile essentielle de Ravintsara qui est immunostimulante et qui a une action anti-infectieuse à large spectre. Alors juste avant d'acheter des huiles essentielles, il y a des contre-indications, pas les femmes enceintes, pas les femmes qui allaitent, pas les épileptiques, pas les asthmatiques et pas non plus les enfants. Il y a des âges limites et ça on le voit au comptoir ensemble. Dans tous les cas, nous approfondirons ce point immunité prochainement avec le docteur Caruso, qui est docteur en pharmacie et micronutritionniste diplômé d'État, accompagné du chef Lionel Lévy dans une interview « Comment booster notre immunité en hiver pour ne pas tomber malade ?» Virginie fera un point vitamines et minéraux et Lionel vous proposera de super recettes pour booster votre immunité naturellement. Je reviens juste sur l'huile essentielle de Ravintsara. Donc, s'il n'y a pas de contre-indication, vous appliquez quelques huiles au niveau des avant-bras puisque la peau est très fine, donc ça passe rapidement dans la circulation sanguine, en friction au niveau du thorax et au niveau des ailes du nez. Donc, vous l'aurez compris, l'antibiorésistance est un problème de santé publique mondiale. Il ne faut pas surconsommer les antibiotiques. Les antibiotiques ont une action seulement sur des infections bactériennes. Pour le reste, il n'y a aucune action, si ce n'est altérer notre organisme. J'ai donc répondu aux questions les plus pertinentes que j'ai relevées sur les réseaux sociaux, donc sur les antibiotiques et l'antibiorésistance. Qu'est-ce qu'un antibiotique ? Quelle est l'origine des antibiotiques? Comment agissent ces antibiotiques? Qu'est-ce que l'antibiorésistance? Quelles sont les causes de l'antibiorésistance? Comment se développe l'antibiorésistance, qui est concerné par ce phénomène, quelles sont les conséquences de l'antibiorésistance sur notre santé, et petite dernière question, que peut-on faire pour lutter contre l'antibiorésistance? Donc, merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci.
Retrouvez les interviews santé de Rebecca.